Les restrictions dues à la pandémie du Covid-19 continuent en ce mois d'août 2021 et je produis mon programme depuis mon domicile à Buenos Aires dans le but de maintenir le lien avec nos auditeurs de RAE en langue française. Ainsi, qui vous parle, Eric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles en attendant le retour au studio de Radio Nationale Argentine. Maintenant, place à l'actualité. Les titres. Variant Delta. 800 personnes isolées à Córdoba. Mais le gouvernement national affirme qu'il ne circule pas dans la communauté. Le président brésilien Jair Bolsonaro avertit qu'il pourrait suspendre les élections de 2022. Au Chili, les travailleurs de la plus grande mine de cuivre du monde sont en grève. Une ville colombienne impose un couvre-feu aux personnes non vaccinées. Des millions de personnes ont voyagé pour les vacances d'hiver en Argentine, mais l'activité touristique a reculé de 25% par rapport à 2019. Les Leonas, l'équipe de hockey argentine, ont atteint la finale de Tokyo et briguent leur première médaille d'or. Bien que le gouvernement assure qu'il ne circule pas encore dans la communauté, le variant Delta a mis l'Argentine en état d'alerte et on compte déjà près de 90 cas confirmés. À Córdoba, quelques 800 personnes ont été isolées à cause d'un homme qui, de retour du Pérou, n'a pas respecté l'isolement obligatoire que doivent observer les personnes retournant au pays. Le patient zéro, qui est actuellement hospitalisé pour une pneumonie, a participé à des activités sociales au cours desquelles il a infecté au moins 20 personnes, ce qui lui a valu d'être inculpé par un tribunal. Des cas de la mutation Delta ont aussi été confirmés à Salta, Rosario et Buenos Aires. La ministre de la Santé, Carla Bisotti, a fait remarquer que, pour le moment, le variant prédominant du SARS-CoV-2 en Argentine est le Gamma, anciennement appelé Manaus ou Amazonien. En ce qui concerne la situation épidémiologique, les infections au coronavirus sont en baisse depuis plusieurs semaines, avec une moyenne de 10 à 15 000 par jour. C'est pourquoi les gouvernements locaux continuent de progresser en matière d'assouplissement et la capitale Buenos Aires a annoncé le retour de la routine scolaire d'avant la pandémie. En ce qui concerne la vaccination, plus de 56% de la population argentine a reçu au moins une dose, alors que la vaccination des adolescents âgés de 12 à 17 ans débute cette semaine. Environ 900 000 personnes se sont inscrites pour être vaccinées avec une partie des 3,5 millions de doses de Moderna données par le gouvernement américain. Par ailleurs, des tests visant à combiner les vaccins de différents laboratoires ont été réalisés, principalement pour pallier la pénurie du composant 2 du médicament russe Sputnik V. Selon les médias locaux, le plus efficace a été celui de Sputnik avec AstraZeneca. Cette semaine, le laboratoire argentin Richmond, qui produit Sputnik localement, a annoncé que le premier lot du composant 2 fabriqué dans son usine a été approuvé par le centre Gamaleya à Moscou et il a anticipé qu'ils seront en mesure de produire environ 3 millions de boosters Sputnik au cours du mois d'août. En outre, le gouvernement national a annoncé que les premières livraisons de Pfizer arriveront en septembre dans le cadre du contrat récemment signé pour 20 millions de doses. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro a menacé de ne pas organiser les élections de 2022 si le système de vote n'est pas modifié. Il a averti « Sans élections propres, il n'y aura pas d'élections », tout en fustigeant ses partisans « Vous êtes mon armée ». Bolsonaro a également lancé un ultimatum au Congrès pour qu'il approuve sa proposition de mettre en place le vote papier en remplacement du système électronique actuel. Selon le président, ce système se prête à la fraude et favorise son principal rival, l'ancien président ouvrier Lula da Silva, en tête des sondages. Les autorités électorales brésiliennes ont déjà validé la transparence du vote électronique, qui est en vigueur dans le pays sud-américain depuis un quart de siècle. Au sujet des élections dans la région, peu de Mexicains ont participé à un plébiscite convoqué par le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador. L'objectif était d'obtenir un soutien pour la poursuite de 5 anciens présidents pour corruption, enrichissement illicite et abus de pouvoir. López Obrador accuse ses 5 prédécesseurs de ce qu'il appelle la période néolibérale comme responsable de la crise actuelle du pays. Seuls 7% de l'électorat s'est rendu aux urnes. Le projet de poursuivre Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón et Enrique Peña Nieto sera donc tronqué. Malgré le faible taux de participation, López Obrador a fait remarquer que sur les plus de 6 millions de personnes qui ont participé aux élections, 96% ont voté oui aux accusations. Au Chili, les travailleurs de la plus grande mine de cuivre du monde ont décrété une grève pour réclamer une reconnaissance pour leur travail pendant la pandémie de Covid-19. Après avoir refusé une offre de 23 500 $ pour chaque ouvrier, l'Assemblée des employés du gisement La Escondida a voté la grève à plus de 99%. Ils réclament une obligation équivalente à 1% des dividendes reçus par les investisseurs étrangers du complexe minier situé dans la zone d'Antofagasta dans le nord du pays. Le conflit se déroule dans un contexte de hausse des prix du cuivre, la principale commodity du pays sud-américain. La Escondida produit plus d'un million de tonnes par an, soit près d'un cinquième du total extrait au Chili, premier exportateur mondial de minerais rouges. Par ailleurs, la Bolivie a commencé la construction d'un réacteur nucléaire qui, une fois conclu, sera le plus haut du monde. Il est destiné à un usage pacifique, principalement médicinal, et est géré par l'entreprise d'État russe de l'énergie Rosatom. Il sera situé dans la ville d'El Alto, à la périphérie de la capitale bolivienne La Paz. En inaugurant les travaux, le président bolivien Luis Arce a souligné que l'on pourra faire des études sans précédent à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer dans des domaines comme l'agriculture, la médecine, l'hydrographie et l'exploitation minière. Selon des sources officielles, le réacteur sera terminé en 2024 et nécessitera un investissement de plus de 350 millions de dollars. La ville de Sucre en Colombie a instauré un couvre-feu pour les personnes qui ne sont pas vaccinées contre le coronavirus. La mesure est entrée en vigueur lundi 2 août et stipule que ceux qui ne sont pas vaccinés doivent rester chez eux. Pour accéder à tout type d'activité, notamment gastronomique, il faut présenter une attestation. À Sucre, les employeurs sont également tenus de s'assurer que tous les employés ont été vaccinés contre le Covid. Il s'agit d'un essai pilote du gouvernement national pour atteindre l'immunité du troupeau au niveau local. Pour cette raison, la ville du nord de la Colombie a reçu la quantité de doses nécessaires pour couvrir toute sa population d'un peu plus de 20 000 habitants. Le couvre-feu pour les personnes non vaccinées durera une semaine jusqu'au lundi 9 août. Dans d'autres nouvelles liées à la pandémie, Cuba a établi le record quotidien des morts par le Covid, 87 personnes le 1er août. Le nombre total de victimes en juillet s'élevait à plus de 1 500, soit plus de la moitié du nombre cumulé depuis le début de la pandémie en mars 2020. En revanche, au Chili, moins de 10 000 cas ont été enregistrés en une semaine, pour la première fois en plus d'un an. Enfin, l'Uruguay commence l'application d'une troisième dose du vaccin contre le SARS-CoV-2 en renfort du variant Delta. Les personnes ayant reçu deux doses du médicament d'origine chinoise CoronaVac ou les personnes à risque ayant reçu un vaccin peuvent être inscrites. Le renforcement sera toujours l'inoculant du laboratoire américain Pfizer, selon le gouvernement uruguayen, qui a révélé qu'une quatrième dose pourrait être appliquée à l'avenir. À tout cela, dans une des premières actions après avoir pris le pouvoir il y a une semaine, le président du Pérou, Pedro Castillo, a annoncé la signature d'un contrat de 10 millions de doses avec la société pharmaceutique chinoise Sinopharm. Plus de 13 millions de personnes ont voyagé à travers le pays pendant les vacances d'hiver en Argentine. Le mouvement dépasse largement les données d'il y a un an, lorsque la pandémie du coronavirus a imposé un strict confinement et des restrictions de circulation. Cependant, l'activité économique durant la pause hivernale a été de près de 25% inférieure à celle de 2019 avant le Covid. Des entrepreneurs du tourisme ont expliqué que les voyages vers des destinations naturelles et des excursions en plein air, en remplacement d'activités culturelles comme des théâtres, des musées ou des concerts, ont été mis en avant. Les destinations les plus visitées en juillet ont été Mar del Plata, Bariloche, Córdoba, Salta, Mendoza, Rosario et la Terre de Feu. Il convient de souligner que les voyages à l'étranger sont limités par les restrictions au retour dans le pays que le gouvernement a mises en place il y a deux mois pour contenir la propagation du variant Delta. Pour cette raison, l'arrivée de touristes étrangers est également totalement suspendue. Dans d'autres nouvelles économiques, le gouvernement a conclu un accord avec les banques privées et a élargi le programme Ahora 12 pour l'achat de produits en paiement par carte de crédit. Le plan a été créé en 2014 pour encourager la vente d'appareils électroménagers, de vêtements, de meubles et de motos en payant sur une année. Les produits devaient être fabriqués localement et les quotas fixes offraient une protection contre l'inflation qui avoisine les 50% par an en Argentine. Au cours des années, Ahora 12 a incorporé plus d'articles et offert plus d'options de paiement en 3, 6 et 18 mois. La relance de cette semaine a porté à 30 les quotas et a inclus des articles aussi variés que des matériaux de construction, des instruments de musique, des lentilles de contact et des pneus, entre autres. Paula Espagnol, secrétaire d'État au commerce intérieur, a déclaré « Consommation, production et emploi font tourner la roue de l'économie ». En contrepartie, les banques ont obtenu certains avantages pour opérer sur le marché financier. Jeux olympiques de Tokyo 2020. Las Leonas, l'équipe nationale de hockey, a battu l'Inde 2 à 1 en demi-finale et brigue sa première médaille d'or face aux Pays-Bas après deux défaites en finale, face à la même équipe à Londres 2012 et à Sydney 2000 contre l'Australie. La sélection argentine de volley a remporté un triomphe historique en battant l'Italie 3-2 en quart de finale et s'est inclinée 3-0 contre la France en demi-finale et affrontera le Brésil pour la médaille de bronze.
Papa loco, où c'est vent, où c'est l'aller, nous c'est papillon, la beauté nouvelle Bayagoué. Papa loco, où c'est vent, où c'est l'aller, nous c'est papillon, la beauté nouvelle Bayagoué. Et tout ça qui dit bien, j'aime l'ailleurs.
Permettez-moi d'insister avec Haïti, en prise à une grave crise politique, sociale et sanitaire. On connaît mal, hors des Caraïbes, la lutte historique des femmes haïtiennes et leur participation dans les combats actuels. Pour un programme du Conseil latino-américain de sciences sociales, j'ai interviewé Sabine Lamour, sociologue, coordinatrice de Solidarité des femmes haïtiennes. En voici un fragment.
Papa loco, où c'est bon, où c'est l'allée, où c'est papillon, la beauté nouvelle, Bayagoué.
L'objet de cette discussion ce matin est de montrer la manière dont les agressions internationales subies par Haïti et structurent le mouvement féministe haïtien en portant les féministes à se positionner pour la souveraineté du territoire national à chaque intervention étrangère. À partir d'une perspective qui s'inscrit dans une histoire longue des luttes féministes des Haïtiennes contre les agressions internes et externes, j'entends discuter avec vous de l'histoire et de l'actualité du mouvement féministe haïtien. En Haïti, selon le récit officiel, le mouvement féministe débute avec la première occupation par les Marines en 1915. Toutefois, nous devons souligner que nous avons répertorié des actes posés par des femmes qui s'apparentent à des actions féministes depuis la fondation du pays en 1804. Au moment de l'occupation, les Marines avaient utilisé le viol des femmes comme un élément du dispositif d'assujettissement du territoire haïtien. Selon Grace Sanders, le viol était l'une des marques de fabrique de l'occupation de 1915. D'autres auteurs traitant de la question et montrent que, durant cette période-là, les agressions des femmes et des jeunes hommes aussi faisaient partie d'un cadre politique et économique global qui implique la dévaluation raciale, économique, politique et sexuelle des corps noirs du tiers-monde. D'autres auteurs haïtiens ont montré et ont souligné le fait que les Marines avaient l'habitude de mener des fouilles dans les marchés contre les paysans rebelles, particulièrement les cacos, en molestant et en dévalisant au passage les vendeuses et les cultivateurs venus vendre leurs produits. Face à cette situation, les femmes de la bourgeoisie, notamment celles qui côtoyaient l'Union patriotique, c'était l'organisation qui luttait et l'organisation composée d'intellectuels et de bourgeois haïtiens qui luttaient contre l'occupation américaine en 1915. C'était les gens de l'Union patriotique alliés aux paysannes vont s'organiser aussi et mettre en place des stratégies de lutte contre les viols et les harcèlements des femmes par les Marines. C'est ainsi que les femmes ont organisé des sit-ins, des levées de fonds, des possessions. Elles ont recueilli aussi des informations pour documenter les exactions des Marines en Haïti. Trois femmes se distinguent par leur dévouement dans cette entreprise. Il s'agit de Thérèse Udico, Alice Gaout et Eugène Malbranche-Sylvain. Ces mouvements ont porté des fruits, puisque plus tard, le gouvernement américain dépêchera une commission pour enquêter sur les méfaits commis par les Marines en Haïti. Cette démarche sonnera le glas de l'occupation du pays par les Marines en 1934. De cette période initiée par les pionnières, les féministes ont conservé la lutte pour le droit à l'autodétermination de soi et de la souveraineté politique comme pilier revendicatif qui allait favoriser la systématisation et l'émergence d'une conscience féministe qui va déboucher sur l'institutionnalisation du mouvement féministe en Haïti en 1934. Après cette période, les filles des femmes qui avaient initié ces mouvements fonderont la première organisation féministe du pays. Il s'agit de la Ligue féminine d'action sociale. À partir des années 1930, les membres ont lutté pour que les filles, notamment les plus démunies, puissent accéder à l'éducation. Et selon Madeleine Sylvain Bouchot, qui est l'une des fondatrices de la Ligue, l'organisation avait tenu des cours du soir pour les ouvrières de la capitale et des villes de province où elle avait une présence Et c'est les actions de la Ligue avaient favorisé la création d'écoles secondaires pour les filles afin de leur faciliter l'accès à l'université. En octobre 1934, de ces luttes-là vont émerger une lycée de jeunes filles dans la capitale, Port-au-Prince. La Ligue féminine d'action sociale a œuvré aussi pour modifier le statut légal des femmes. Mais en outre, la Ligue a mené aussi des plaidoyers depuis sa création jusque dans les années 50 pour que les femmes aient accès au droit de vote. Elles ont un gain de cause, mais la dictature les empêchera de jouir de ces droits. En 1957, avec l'arrivée de François Duvalier au pouvoir, la dictature a imposé le silence à l'ensemble du mouvement social haïtien. Les autres secteurs de la vie nationale avaient été touchés. L'Église, les syndicats, les partis politiques, les organisations sociales, les organisations d'étudiantes et de femmes étaient forcés de fonctionner dans la clandestinité. Jouant sur la peur des États-Unis et de la montée du communisme dans la région, ce pays a largement appuyé, les États-Unis a largement appuyé la dictature en Haïti en fermant les yeux sur les exactions du régime, nonobstant les tentatives de Kennedy pour déloger et Duvalier du Palais national. Il n'y avait pas eu beaucoup d'entente entre Duvalier et Kennedy. Outre les États-Unis, le duvalierisme a amplement bénéficié du soutien du bloc occidental en ayant accès à la fois à l'argent et aux armes pour tenir en respect la population haïtienne avec le support de sa milice, les VSN. La Ligue féminine d'action sociale avait payé le prix fort pour avoir lutté contre la montée du fascisme en Haïti. Les militantes furent emprisonnées, torturées, violées, tuées, battues, exilées, exécutées. Je pense spécialement aux féministes et femmes victimes de la dictature, dont entre autres Yvonne Akinwumpel, Laurette Badet, Marie-Thérèse Fival et Annie Rigaud. La répression instaurée par la dictature avait conduit à la déstructuration des organisations féministes en les réduisant à des structures philanthropiques ou en les forçant à fonctionner de manière clandestine. D'ailleurs, toutes les femmes qui ne reconnaissaient pas le projet duvalieriste, incluant les féministes de la Ligue féminine d'action sociale, étaient considérées comme des apatrides. De cette période, le mouvement a conservé les luttes pour l'accès aux droits civils et politiques pour les femmes et facilité la systématisation de l'institutionnalisation du mouvement après la chute de la dictature en 1986. Dans l'effervescence politique post-86, les féministes ont réinvesti l'espace politique en lançant une grande manifestation le 3 avril 1986. C'est dans cette foulée qu'émergent les organisations féministes telles la SOFA, CAIFEM, Femmes Décidées, CPFO, AFASDA. C'est dans cette foulée aussi que le mouvement s'impose en tant que moteur de mobilisation pour les revendications populaires et spécifiques. En 1996, sous l'impulsion des féministes, le 3 avril est reconnu par le Parlement haïtien comme étant la journée nationale du mouvement féministe haïtien. Depuis cette date, les féministes ne cessent de lutter pour transformer les situations et la condition des femmes. Et elles ont mis en place dans ce cadre des programmes de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, des programmes de plaidoyer autour de la participation politique des femmes, ainsi que des programmes autour de l'autonomisation économique des femmes et de leur santé, et des programmes pour la prise en charge de leur santé sexuelle et reproductive. Ces mouvements initiés par les féministes post-86 réclameront la rupture avec l'impunité et l'injustice qui régnaient jusqu'alors dans la société, notamment durant les années 90 et 2000, et pendant le coup d'État du 30 septembre 1991. En effet, durant cette période, le viol fut encore utilisé comme arme de terreur et de répression politique par les militaires contre les femmes, notamment les femmes des cordillères qui réclamaient le respect du vote du 16 décembre 1996. Parce qu'en Haïti, le 16 décembre 1990 est considéré comme la date où s'est tenue les élections qui avaient favorisé l'accession de M. Aristide au pouvoir. Et depuis lors, on considère cette date comme la seule date où il y a eu des élections démocratiques en Haïti. Ces périodes furent fondamentales dans la mise en place des balises féministes dans le pays. Et dans cette démarche, émergera le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, sous l'impulsion de la SOFA, le 8 novembre 1994, comme espace de concrétisation des revendications des femmes. Cette période marque aussi l'entrée des féministes dans les espaces de décision politique formelle et dans l'espace public de manière générale. Par exemple, elles ont mené une lutte acharnée pour la reconnaissance de l'apport des femmes dans la vie nationale à tous les niveaux. Ce processus se remarque avec l'entrée de Catherine Flon comme héroïne de l'indépendance sur la principale place du pays, le Champ de Mars. Cette période fut assez difficile pour la population, notamment les femmes, avec le renforcement des politiques d'ajustement structurel et sous l'impulsion des organismes économiques tels FMI et Banque mondiale, avec en plus l'imposition d'un embargo sur Haïti par la communauté internationale et le retour de l'armée états-unienne en Haïti pour sécuriser le retour du président Aristide. Quoi qu'important les gains politiques engrangés par les femmes qui avaient payé le prix fort pour le retour à l'ordre constitutionnel étaient mitigés du fait de ces situations. Parallèlement, durant cette période, il faut reconnaître que ce fut une période riche politiquement pour le mouvement féministe haïtien, dans la mesure où elles ont passablement réinventé leur répertoire d'action politique aussi. En témoigne la tenue du tribunal symbolique des femmes sous l'impulsion de Caïfam en 1997, annonçant la mise en place des structures d'accueil et d'hébergement pour les femmes et les filles violentées. La reconnaissance du 3 avril 1996 par le Parlement haïtien comme journée nationale du mouvement féministe en Haïti et la tenue de la marche mondiale en Haïti sous l'impulsion de la SOFA qui a débouché sur l'élaboration d'un cahier de revendications des femmes haïtiennes. Durant les crises de 2004, les organisations féministes sur le terrain furent parmi les premières à se positionner contre les dérives du gouvernement d'Aristide en déclarant le gouvernement hors la loi. Après le départ d'Aristide, le kidnapping et les agressions contre les femmes se sont imposés dans le paysage urbain national. Les Nations Unies ont envoyé une mission de stabilisation en Haïti avec le Brésil comme chef de file, sous le prétexte fallacieux de maintenir la paix dans le pays. Tout en luttant contre la MINUSTAH, c'est la mission des Nations Unies pour la stabilisation et la paix en Haïti, qu'elle considérait comme une force d'occupation, les féministes en ont profité pour monter deux structures qui regroupaient les organisations féminines et féministes entre elles. C'était la CONAP et la Concertation Nationale. Dans cette structure, elles ont mené les batailles notoires de la décennie, la criminalisation du viol, la loi sur le travail domestique, la loi sur le placage et la paternité responsable, et le fait de rebaptiser plus de 43 rues au nom des femmes dans tout le pays. Entre 2004 et 2018, les soldats des Nations Unies ont violé des jeunes filles et des jeunes hommes, abandonné des enfants, entraîné des jeunes dans la prostitution tout en apportant le choléra en Haïti. Les féministes ont réclamé des poursuites contre la MINUSTAH tant pour les viols commis que pour l'introduction du choléra dans le pays. Fait nouveau dans le paysage politique haïtien, en 2006, le féminicide lié à la violence des gangs fait son apparition dans le paysage politique haïtien et cela se remarque avec le kidnapping et l'assassinat de Natacha Kerbi-Dessous. Durant les années 2010, la catastrophe qui avait frappé le pays n'était pas sans répercussion et sur le mouvement féministe. Trois d'entre les leaders notoires du mouvement disparurent le 12 janvier 2010. Le pays étant à genoux, l'international en a profité pour renforcer sa domination sur Haïti. C'est dans cette dynamique que les élections qui vont porter le PHTK au pouvoir se réaliseront sous la direction de certains pays de la communauté internationale en apportant un soutien indéfectible à ce régime. Dans cette même veine, les démarches de reconstruction après la catastrophe furent cooptées par le CIRH qui a imposé une approche externe de la reconstruction. Cette démarche fut dénoncée par les organisations féministes qui furent écartées du processus de reconstruction par les organisations internationales. Dans cette entreprise, les organisations internationales en ont profité pour investir le ministère à la condition féminine en transformant cette institution en espace technique pour exécuter leurs projets et programmes. Cette transformation s'est faite au détriment des luttes pour la dépatriarcalisation de la société au bénéfice de l'approche libérale et égalitaire du féminisme. Cette démarche montre la manière dont l'international s'allie avec le pouvoir pour effacer la mémoire des luttes féministes en instrumentalisant les espaces de conquête du mouvement. Ce moment historique a favorisé la définition de deux politiques phares dans les luttes des femmes au sein des espaces décisionnels. Parce qu'il faut dire, même s'il y a eu ces éléments funestes, et les féministes n'ont pas baissé les bras, elles ont continué à lutter aussi à l'intérieur d'autres structures, à l'intérieur de la société, et à un certain moment, elles ont aussi collaboré avec des alliés au sein de certaines institutions pour favoriser la définition de certaines politiques publiques, dont par exemple la politique égalité entre les femmes et les hommes et le plan national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Toutefois, quoique ces acquis, cette période a laissé le mouvement féministe passablement dévitalisé au profit d'une ONG, ONGisation outrancière sanitaire des espaces habituellement occupés par les féministes. En 2011 et 2015, durant le premier mandat du pouvoir PHTK, quoique les dérives du président Martelly, l'international s'est toujours montré solidaire du gouvernement. C'est dans cette dynamique que le core group s'est imposé dans le milieu politique et tend à occuper tout l'espace de médiation entre les Haïtiennes et leurs dirigeants. Cette situation est dénoncée par certaines organisations féministes, notamment celles qui ont émergé dans les luttes politiques antidictatoriales et qui, depuis le début de la crise politique que traverse le pays en juillet 2018, demandent à ces acteurs de céder la place aux nationaux. Cela est d'autant plus important que dans la crise actuelle, le viol, encore une fois, est utilisé comme un dispositif de terreur contre les revendications de la population. Il revient de comprendre que les institutions internationales soutiennent un gouvernement qui refuse d'intervenir sur les viols commis par les gangs ouvertement soutenus par certains dignitaires du régime, alors qu'elles financent des programmes de prise en charge de violences faites aux femmes. Actuellement, nous devons reconnaître que le mouvement féministe fait face à une période de backlash politique après les acquis engrangés durant les décennies 90 et 2000. Les luttes des féministes avec le concours de l'international sont vidées de leur contenu politique. Mais c'est au cours de cette même période que la SOFA organise le Parlement symbolique des femmes pour montrer aux femmes l'importance de leur poids dans les espaces de décision. Depuis 2018, pour lutter contre les dérives du gouvernement en place, les féministes se sont alliées avec d'autres organisations afin d'établir des espaces de réflexion sur les difficultés que traverse le pays.
Et ainsi se termine ce programme en français de RAI, l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.